Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le week-end est enfin arrivé, nous le commençons ensemble sur RTL pour mon plus grand plaisir. Nous voilà bien, c'est le magazine de votre samedi matin qui a pour mission de vous aider à consommer mieux et plus responsable. Et tout ça, comme toujours, dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti, place au sommaire. Le Black Friday, c'est l'événement commercial à ne pas manquer. Smartphone, ordinateur, téléviseur, jeux vidéo, basket, tendance. Ce vendredi 26 novembre, vous aurez 24 heures pour faire un maximum de bonnes affaires juste avant les fêtes de Noël. Alors comment bien se préparer et quelle promo spectaculaire nous réserve ce Black Friday 2021 ? Réponse avec Alexis Melka, directeur associé d'Apollo Plus. Savez-vous qu'envoyer un email, regarder une série en streaming et même faire un simple like sur un réseau social, eh bien ça pollue. La pollution numérique est devenue un enjeu écologique majeur pour le monde de demain. Mais comment comprendre cette pollution abstraite et impalpable et quels sont les gestes simples à adopter pour réduire son impact numérique ? Réponse avec Florence Clément, chargée de l'information du public à l'ADEME. Trop de fibres, de crudités, de graisses cuites, résultat, on est tout ballonné. Si les flatulences peuvent faire rire, eh bien elles mettent aussi dans l'embarras. Alors si vous avez le ventre gonflé après les repas, il est temps de revoir vos habitudes alimentaires. Conseil dans un instant avec Solveig Darrigaud-Dartinet. En 1975, signait déjà une chanson qui s'appelait Black Friday. Alexis Melka, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes directeur associé d'Apollo Plus. Ce sont des solutions de prédiction des ventes basées sur l'intelligence artificielle. Vavavoum, ça correspond à quoi ça ?
On aide les entreprises dans les secteurs du retail, de la logistique, la distribution, à anticiper leurs ventes, anticiper leurs besoins de matières premières, de commandes, pour mieux servir leurs clients.
Ok. Le Black Friday, c'est le vendredi 26 novembre. Alors, les produits stars les plus surveillés pour les chasseurs du Black Friday, c'est quoi ?
Les produits qui font généralement le plus rêver, c'est les produits les plus chers sur lesquels un pourcentage de réduction, ça veut dire une grosse économie, 40% sur 1000 euros, bah, c'est tout de suite 400 euros d'économiser, donc ça attire. Donc, c'est souvent des produits technologiques haut de gamme, des téléphones, des télévisions, des consoles de jeux vidéo, mais aussi l'électroménager ou l'ameublement. Quand ça va jusqu'à 70 ou 80%, ça peut être très intéressant, même si ce n'est pas toujours sur les produits dernier cri.
Alors, quels sont les produits comme ça qui font rêver les gens ? C'est quoi ? C'est le dernier iPhone, la PS5, la Nintendo Switch
Exactement, on retrouve déjà, on est à 10 jours du Black Friday, mais on a des premières réductions sur les AirPods 2 d'Apple, par exemple, qui sont à 100 euros au lieu de 150 euros, donc ça commence à être intéressant, mais aussi des aspirateurs Dyson chez Ubaldi, ou une TV LED 4K Samsung à 550 euros au lieu de plus de 1000 euros chez Cdiscount. Voilà, c'est autant de bonnes affaires qu'on trouve en ce moment.
Mais pourquoi certains produits sont-ils en promo et pas d'autres ? C'est surprenant ça.
Généralement, il y a deux types de promos. Il y en a sur des produits stars très attractifs pour les consommateurs, c'est-à-dire on va avoir une promo pour faire venir le client, générer l'intérêt, le trafic sur les sites internet, mais en quantité très limitée. Et puis de l'autre côté, on a des produits en stock chez les distributeurs dont on a du mal à se débarrasser parce qu'ils ont un ou deux ans d'ancienneté. Alors là, on est plutôt, on va chercher à les brader pour les faire partir plus vite et laisser la place aux nouveaux produits, notamment à l'approche de Noël.
Mais Alexis Melka, ce sont vraiment des promos exclusives ce jour-là ou est-ce que de toute façon, je dirais que ces produits allaient être bradés dans peu de temps finalement ?
Pour les produits stars, ça peut être une vraie aubaine parce que les promos, on n'est pas prêt de les retrouver. Pour les invendus qu'on essaye de brader, c'est vrai que là, on peut les retrouver lors des soldes d'hiver, par exemple, après Noël. Ce ne sera pas si exclusif que ça.
Ok.
Ce qui va changer cette année, c'est qu'on est dans un contexte un peu particulier. La pandémie a désorganisé la production et le commerce dans le monde entier. Et on entend parler de certaines pénuries sur les composants électroniques, sur le bois, etc. Donc ça veut dire que là où d'habitude on disait « Monsieur le client, vous voulez le produit de dernière génération qu'on va vous afficher très cher ?» ou alors le modèle qui a un an ou deux à moins 60%. Alors qu'aujourd'hui, vous voulez un nouvel ordinateur, vous n'avez pas le choix, on n'a que le modèle de 2019.
Donc on prend ou on prend pas quoi ?
Exactement.
Je
comprends. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a intérêt à brader ou pas ? Là, il faut faire le pari. Et certains vont faire le bon choix grâce à des bonnes solutions de prédiction et d'autres non.
Dites-moi, quels sont les sites qui proposent les meilleures offres pendant le Black Friday ?
Alors là, c'est toujours la compétition entre ces différents sites, aussi bien chez Darty que Cdiscount, que Amazon. La concurrence fait rage pour proposer l'offre la plus attractive à son client. Et celui qui était le plus agressif l'an dernier va peut-être se faire doubler cette année.
Donc, d'accord.
Il faudra faire le bilan quand les offres vont sortir.
Donc on en parlera plus tard. Est-ce qu'il y a des sites qui centralisent les meilleures offres du Black Friday pour être certain de ne rien rater ? Comme ça, au moins, on n'est pas en train de chercher le plus agressif, le plus offensif dans cette compète.
C'est parfois la jungle. Et oui, des sites peuvent nous aider. C'est généralement les mêmes sites qui, d'habitude, proposent des actualités ou des comparatifs de produits, comme lesnumériques.com ou ledénicheur.com. Il y en a plein d'autres, mais c'est des bons exemples.
Très bien. Le niveau moyen des réductions, parce que vous nous parliez tout à l'heure, jusqu'à 70%, 80%. Quels sont les produits qui vont profiter d'une promo maximale, Alexis Melka ?
Les promos maximales, c'est généralement sur les produits dont on a du mal à se débarrasser. Mmh. La promo moyenne, elle est compliquée à calculer parce qu'il y a une telle variété d'offres et de produits lors du Black Friday. Mais l'intérêt, c'est vraiment de créer l'événement et pour événementialiser, pour attirer l'attention, on a besoin de ces gros niveaux de promos.
Le Black Friday, là on parle des sites, les numériques, le dénicheur, mais c'est uniquement en ligne ou c'est aussi en magasin ? Moi, en magasin, ça me ferait un petit peu peur, alors que je préfère aller directement chez les commerçants. Mais je me dis que le jour du Black Friday, ça doit être la folie.
Vous avez les deux. Le Black Friday, c'est en ligne et en magasin. Historiquement, c'est d'ailleurs en magasin. Ça vient des États-Unis dans les années 30 où on voulait lancer la saison de Noël. Et pour faire face à l'afflux des clients, justement, ils se sont mis à ouvrir de plus en plus tôt jusqu'à arriver à minuit. Avec le e-commerce, c'est plus pratique, c'est plus simple de rester chez soi. En plus, ça a l'avantage de pouvoir comparer instantanément ce qui se fait dans les différents sites Internet. Mais vous avez le choix, vous pouvez aller voir votre commerçant et profiter de ses offres.
Et quand on décide de le faire en ligne, ça veut dire qu'il faut se connecter le plus tôt possible ou il y en aura pour tout le monde, genre on s'y met, on s'y colle dès minuit dans son lit ?
Ça dépend. En fait, le Black Friday, il a déjà commencé chez certaines enseignes en ligne. Vous avez entendu parler de la Black Friday Week et maintenant, on parle même du Black Friday Month. Je disais au début, vous avez déjà des promotions sur les AirPods ou autres. Donc, vous pouvez déjà vous connecter et surtout avec les pénuries dont on entend parler, certaines marques vont avoir du mal à proposer leurs produits et il n'y en aura pas pour tout le monde.
Bon, on va se retrouver dans un instant car c'est passionnant tout ça. Et nos auditeurs nous écoutent. Ils ont compris que le Black Friday a commencé, mais la journée du Black Friday, c'est vendredi de la semaine prochaine. On va voir si toutes les marques jouent le jeu. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Il est l'heure de vous réveiller, d'écouter Nous voilà bien. Dans un instant, on parlera pollution numérique et vous risquez d'être surpris avec Florence Clément. Ensuite, on va poser des questions qui fusent à Solveig Darrigaud-Dartinet sur les aliments anti-ballonnement. Mais pour l'heure, allez, on va s'alléger un petit peu le porte-monnaie, mais avec de belles réductions puisqu'on parle du Black Friday. Avec vous, Alexis Melka. Vous êtes directeur associé d'Apollo Plus. Alors, le Black Friday, vous nous avez déjà donné envie. On a compris qu'on peut avoir de bonnes réductions. On a compris que ça avait déjà commencé. Mais est-ce que toutes les marques jouent le jeu ?
Eh bien non, pas toutes les marques jouent le jeu du Black Friday, même si c'est très suivi maintenant par la plupart des acteurs du e-commerce. Mais on a une bande d'irréductibles qui s'opposent au Black Friday pour des raisons très différentes.
Ouais.
Vous avez les marques premium, les marques de luxe par exemple, qui ne veulent pas créer un réflexe d'attente de réduction chez leurs clients. Ils veulent garder cette image de marque.
Mmh.
Mais vous avez aussi un positionnement écologique. Je suis une marque dans une démarche durable, de mieux consommer. Et donc, je vais m'opposer à la fast fashion, par exemple. Et donc, je ne vais pas jouer le jeu de la surconsommation avec des promos.
C'est vrai.
Enfin, vous avez aussi les sites de seconde main, par exemple, comme Back Market, qui se positionnent sur l'économie circulaire, le comportement raisonné, et donc loin des achats compulsifs qu'on peut associer au Black Friday.
Et je comprends, et c'est vrai que nous, on a tendance aussi à jouer la modération, mais ça ne nous empêche pas non plus d'être dans le coup dans cette émission et de s'intéresser à tous les phénomènes aussi de consommation, peut-être pour mieux les aborder. C'est pas parce qu'on parle du Black Friday qu'il faut se jeter dessus, mais en tout cas, c'est pour faire de vous des consommateurs plus avertis. Le budget moyen d'un acheteur en ligne le jour de Black Friday, c'est combien ?
En 2019, par exemple, c'était aux alentours de 170 euros. pour les achats en ligne. Et c'était près de 60% des Français qui ont fait des achats à l'occasion du Black Friday.
C'est pas mal, hein ? On a la possibilité de se faire rembourser un produit acheté le jour du Black Friday si je suis déçue, si ça ne me convient pas, si mon pantalon est trop grand parce qu'ils ne sont jamais trop petits.
Alors oui, c'est possible. C'est comme toujours, ça dépend chez qui. Il faut faire attention aux conditions générales de vente et bien regarder à qui on a affaire. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que pour tous les achats en ligne, là c'est la loi, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours.
Ok, si je rate le Black Friday, est-ce que je peux me rattraper le jour du Cyber Monday ? C'est quoi le Cyber Monday ?
Oui, on a vu arriver ça il y a quelques années. Alors c'était pour prolonger le Black Friday, là aussi ça nous vient des États-Unis, où parfois ils partaient en long week-end de Thanksgiving lors du Black Friday, et le Cyber Monday c'était pour permettre aux salariés de faire leurs courses depuis leur bureau. Et donc on a effectivement des offres qui se prolongent sur le Cyber Monday, souvent sur l'électronique, la high-tech. Donc ça brouille les pistes, les frontières sont de plus en plus fines entre les deux événements. Et voilà, c'est encore l'occasion de faire des promos.
Voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, mais Cyber Monday, Monday ça veut dire lundi. Donc on
Absolument.
Prolonge en fait le plaisir. Eh bien, c'en était un plaisir, Alexis Melka, de parler avec vous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de la sorte. C'était super intéressant. Et
Merci
très
beaucoup.
Clair. Donc à bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci Alexis. Florence Clément, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chargée de l'information du public à l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et avec vous, on va parler de la pollution numérique. Mais c'est vrai que la pollution numérique, en fait, elle n'est pas palpable. Hein. Est-ce que c'est ça l'empreinte carbone ?
Alors ça en fait partie. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on touche au numérique, tout est virtuel, mais en fait non, ça fait appel à beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de choses, ça consomme de l'électricité, donc finalement c'est pas si matériel que ça, et ça participe à nos émissions de gaz à effet de serre. Ça utilise aussi beaucoup de matières premières pour fabriquer nos petits bijoux technologiques, et toute l'extraction des métaux pour fabriquer ces objets, tout ça a aussi des impacts sur l'environnement, donc en effet, le numérique n'est pas toujours irresponsable.
Internet polluerait une fois et demie plus que le transport aérien, Florence. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un email que j'envoie ou que la série que je regarde sur mon ordinateur pollue ? Je comprends pas.
Pas tout à fait Internet qui pollue autant, voire plus que le trafic aérien, c'est tout le secteur du numérique confondu.
D'accord. Okay.
Et c'est vrai que ça pollue beaucoup. Alors, on pense en effet que quand on envoie un email ou qu'on regarde une vidéo, il n'y a pas grand-chose qui s'échange. En fait, il y a énormément de données qui s'échangent. Et tout ce qu'on peut regarder en ligne, par exemple, on va prendre un chiffre. 10 heures de vidéo en haute définition contiennent plus de données que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia.
Waouh.
Voilà, on n'imagine pas à quel point toutes ces données ont besoin d'être échangées. Échanger des données, c'est forcément faire fonctionner des serveurs, des routeurs, des data centers pour répondre à tous nos usages. Et ça demande de l'électricité pour fonctionner. Donc plus on regarde de vidéos, plus on utilise nos appareils numériques, plus on fait voyager de la donnée, et donc on consomme de l'énergie.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi la fabrication de tous ces équipements, en fait, qui est très très impactante, qui demande des ressources et qui consomme énormément d'énergie.
Je comprends. C'est quoi le jour du dépassement, Florence Clément ?
C'est le jour où la Terre a consommé toutes les ressources naturelles qu'elle peut produire en un an. Dans les années 70, ça tombait le 29 décembre. En 2021, le jour du dépassement a eu lieu le 29 juillet.
Waouh !
Plus on avance dans le temps et plus ce jour du dépassement est proche, ça veut dire qu'on utilise de plus en plus les ressources de la planète.
Alors, quelle incidence concrète ça a sur notre planète, justement ?
C'est que toute cette consommation de ressources naturelles va entraîner l'épuisement de certaines ressources.
Ouais.
Et puis, on sait bien que tout ça va aussi avoir un impact sur la pollution, puisque plus on utilise ces ressources, plus on va les chercher loin. On extrait des métaux dans des conditions éthiques et environnementales qui sont vraiment pas satisfaisantes. Mmh. Et puis, toute cette exploitation de ressources infinies, de toute façon, a une limite. On a besoin de fabriquer... Enfin, on est en train de fabriquer de plus en plus d'objets qui demandent d'extraire toujours plus de matières premières et qui génèrent toujours plus de pollution. Et on sait bien que tout ça a une limite.
On va se retrouver dans un instant, Florence Clément, parce que vous allez nous donner des trucs et astuces. On va rentrer concrètement dans notre vie quotidienne et voir comment on peut justement alléger un peu les choses. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On les appelle les aliments anti-ballonnement. Bon, bref, vous avez compris, on va parler des aliments qui empêchent les gaz. Ce sera dans un instant sur RTL. Ça fait partie des sujets, moi, qui me mettent de bon poil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais pour l'heure, on parle de la pollution numérique et c'est autrement plus sérieux. Oui, car Florence Clément, on pollue. Quand on regarde une série, quand on envoie un mail et même quand on like la photo d'une personne que l'on aime bien sur Instagram, on pollue. Et puis de toute façon, pour avoir tous nos objets numériques à la maison, eh bien, on extrait des métaux, on fait plein de choses qui polluent. Bref, quand on vous écoute, en fait, Florence Clément, on se dit qu'il faut être averti. Un consommateur de numérique averti. C'est difficile de vivre sans le numérique, on est bien d'accord ?
On est bien d'accord.
Néanmoins, c'est vrai que l'on peut aussi parfois poser des gestes modérateurs qui vont avoir un impact sur l'environnement. Concrètement, qu'est-ce qui pollue le plus dans ma maison entre un ordinateur fixe, un portable, une tablette ou un smartphone ?
La taille de l'appareil va beaucoup impacter.
Ah oui ?
Tous ne consomment pas la même énergie. Voilà. Par exemple, un ordinateur portable, il est conçu pour être optimisé au maximum, pour que sa batterie tienne le plus longtemps possible et donc pour que la manière dont il fonctionne est vraiment très optimisée. Il consommera donc moins qu'un ordinateur fixe. Un téléphone portable consomme lui aussi moins qu'un ordinateur portable. Plus on a des télés qui sont grandes, et plus elles consomment d'électricité. Donc la taille compte, mais également l'usage qu'on en fait. Plus en fait on va accepter d'échanger de la donnée, donc plus on installe d'applications sur son téléphone, on reçoit de notifications, on est tout le temps connecté avec son GPS, etc. Mais ça, tout ça va échanger de la donnée. Donc quand on veut limiter son impact environnemental, on limite le nombre de données échangées. Déjà, les applications dont on n'a pas vraiment besoin, on les désinstalle. On ne reçoit pas forcément toutes les notifications. Certaines sont inutiles. On ne se met pas en GPS si on n'en a pas vraiment besoin. De la même manière, on peut de temps en temps éteindre certaines choses quand on est à la maison. Par exemple, être tout le temps en Wi-Fi plutôt qu'en 4G. Des choses comme ça nous permettent déjà de gagner sur la consommation de l'appareil.
Mon ordinateur, je peux le nettoyer aussi. C'est-à-dire, si je vide ma corbeille ou si je vide ma boîte mail de tous les spams que j'ai ou des messages qui ne servent à rien, c'est un geste écologique.
Ce que j'allais vous proposer, c'est en deuxième geste, c'est bien de faire le ménage.
Alors concrètement, je vais vous poser des questions et vous me répondez. Faire des selfies, est-ce que ça pollue ?
Oui.
Quand je sors sur Internet, est-ce que il y a un moyen pour moi de dépenser moins d'énergie ?
Oui, vous pouvez tout à fait garder les adresses où vous allez systématiquement en favori pour éviter de faire des recherches. À chaque fois que vous lancez une recherche, c'est une donnée qui voyage, qui fait jusqu'à 15 000 km pour venir vous donner le site dont vous avez besoin.
Si j'éteins pas mon ordinateur ou mon téléphone portable la nuit, est-ce que je pollue ?
Alors vous polluez si vous recevez encore des données dont vous ne vous servez pas pendant toute la nuit.
D'accord. Le mode avion, le mode nuit, donc c'est quelque chose d'intéressant.
Le mode avion, vous évitez toutes les données, de recevoir toutes les données. Le mode nuit, vous n'êtes juste pas dérangé par le bruit. Donc c'est pas tout à fait pareil.
Si j'ai envie de changer de téléphone portable régulièrement, je me dis, je change de téléphone. Forcément, ça a un impact, on l'aura bien compris. En revanche, est-ce que le reconditionner, c'est intéressant ?
C'est intéressant dans le sens où vous allez prolonger la durée de vie d'un appareil qui existe déjà et qu'on n'a pas besoin de fabriquer.
Okay.
Donc voilà, c'est intéressant dans ce sens-là.
Alors, si je m'engage et que nos auditeurs s'engagent aussi à faire ces gestes qui, somme toute, ne sont pas impossibles, je veux dire, c'est pas incommensurable d'enlever des applications sur notre téléphone. En plus, ça fait le ménage, ça fait du bien à sa tête, moi, je trouve, de temps en temps, de clarifier les choses. Est-ce que ça suffit, à un moment donné, clairement, Florence Clément, est-ce que c'est pas plutôt aux acteurs du web aussi d'agir à un moment donné sur la pollution digitale qu'ils engendrent ?
Alors c'est à tout le monde d'agir. Nous, en tant que consommateurs, on a vraiment le choix. On peut déjà choisir de garder nos appareils le plus longtemps possible. Par exemple, garder un ordinateur 4 ans plutôt que 2 ans, on diminue déjà de 50% son impact environnemental. Maintenant, les fabricants, eux aussi, peuvent diminuer les impacts environnementaux en permettant que tous ces équipements durent le plus longtemps possible. Donc en les rendant plus facilement réparables, par exemple. Que ce soit des ordinateurs ou des téléphones portables. Et là aussi, eux, leur rôle est vraiment très important. Aujourd'hui, pour aider le consommateur, d'ailleurs, il existe un indice de réparabilité sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, même sur les télévisions, qui permet en fait de savoir si l'appareil va être facile ou pas à réparer. Voilà.
Mais c'est bien.
Alors voilà, et cette note qui est sur 10, comme à l'école, en fait, plus elle se rapproche de 10, et plus l'appareil est considéré comme facilement réparable.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Florence Clément. Je vous promets de faire attention. Moi, j'éteins ma box la nuit, c'est bien ça ?
C'est pas mal, c'est une très bonne chose.
D'accord,
oui.
Il faut avoir des multiprises un peu partout, je pense. Et puis après, on n'a plus qu'à appuyer sur la multiprise et ça éteint tout, c'est pas con.
C'est parfait.
Bon, très bien. Merci beaucoup. Je ne cherchais pas une bonne note, mais je me disais que ça pouvait être un petit truc en plus. En tout cas, merci beaucoup Florence Clément. Je rappelle que vous êtes chargée de l'information du public à l'ADEME et que c'était super intéressant. À bientôt sur RTL.
À bientôt. Au revoir.
Bonjour Solveig Darigaud d'Artiné.
Bonjour Flavie.
Je dois l'assumer, ça fait partie des sujets qui me passionnent et qui me font ricaner toute la semaine en disant avec Solveig Darigaud d'Artiné, eh bien samedi matin, on va parler des gaz et des flatulences. Mais attendez, c'est pas complètement idiot non plus, hein, parce que ça fait partie des sujets dont on ne parle pas alors qu'on est tous plus ou moins concernés.
Exactement, ça concerne énormément de consultations, donc faut pas le négliger. Hein.
Bon, alors les symptômes c'est quoi? C'est quand on a mal au ventre?
Ballonné, des gaz qu'on essaye de retenir plus ou moins et puis c'est que le transit il est pas sain, hein, ça se passe pas bien quoi.
Bon, et en même temps on est souvent concerné. Alors est-ce qu'on sait pourquoi le chou, l'ail, il y a quoi? Il y a l'oignon, les haricots blancs?
Oui, alors il y a pas mal de ces légumes. Alors il y a plusieurs causes, hein, déjà parce que des fois ce sont les aliments en soi, c'est notre stress, c'est notre intolérance, ça peut être il y a plein de raisons, hein, déjà parce que des fois on les supporte bien et des fois on les supporte pas bien. Il y a des gens qui vont avoir des troubles occasionnels et d'autres de façon plus chronique, mais en tout cas pour ces aliments-là, donc notamment les choux que vous avez cités, il y a l'artichaut, il y a le poireau, l'ail, l'oignon, ils fermentent dans l'intestin. Donc c'est vrai que quand on est sensible, on a tendance à soit les éliminer, soit en manger très peu. Effectivement, il y a une façon de les cuire, peut-être notamment on dit de changer l'eau de cuisson, de les ébouillanter pour les choux avant de les cuire dans une autre eau de cuisson. Donc ça peut aider. Après, il y a dans les légumineuses, les haricots blancs et cassoulet, bien sûr, plus c'est gras, plus c'est indigeste. Et puis, ce sont leurs fibres. Hein, et il n'y a pas même chose pour les céréales complètes, hein, le riz, le pain. Ils ont des fibres insolubles qui sont à la fois bénéfiques pour le transit, hein, qui sont intéressantes, mais pas toujours bien tolérées. Alors, il faut bien mâcher. Et puis ensuite, il y en a certaines qui passent mieux, comme les lentilles, par exemple. Donc, on les intègre progressivement. On n'y va pas d'un seul coup. Tiens, je me mets à manger plein de féculents, plein de légumineuses.
Mais vous parlez que de choses qui sont bonnes, quoi. C'est quand même incroyable. En plus, c'est de saison, le chou, les choux de Bruxelles, les poireaux, il y en a partout quand on mange des légumes, c'est tellement bien. On va se retrouver dans un instant, Solveig Darigaud okay. d'Artiné, parce que grâce à vous, eh bien ça va aller beaucoup mieux. Tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On pourrait peut-être se remettre un petit adada sur mon bidet, là, hein? Non? Je vais demander à Dany, comme ça. Bienvenue dans Nous voilà bien. Merci, Dany. Voilà, vous avez compris le sujet. Avec Solveig Darigaud d'Artiné, qui est diététicienne et nutritionniste, et dont le livre Un potager pour nourrir ma famille se trouve chez Rustica Éditions. Nous parlons donc des flatulences et des aliments, en fait, hein, qui, à un moment donné, on va pas se mentir, font des gaz et nous font péter. Et ça, c'est pas super super. Et Solveig Darigaud d'Artiné, eh bien, il en est beaucoup dans le potager, on vient de le dire, beaucoup de légumes. Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'à un moment donné, il faut pas les manger cuits, crus, mûrs, épluchés. On va d'abord commencer par les légumes et ensuite, on verra pour le reste.
Déjà, ce qui peut poser problème, c'est quand on mâche pas bien. D'accord. Donc, les crudités, forcément, vont donner plus de ballonnement que les légumes cuits. Parce que les fibres, à la cuisson, sont attendries. Donc, c'est intéressant de les cuire. Maintenant, on a besoin du cru, parce que c'est là qu'il y a les vitamines C, notamment. Donc, on va essayer de manger plutôt le cru en début de repas et d'alterner avec du cuit qui sera plutôt en plat principal, par exemple.
D'accord.
Ou alors, on dit souvent des hors-d'œuvre ou des crudités, mais la betterave rouge, elle est souvent cuite. Les poireaux vinaigrettes, c'est cuit. Donc, ça reste du légume qui va être plus digeste. Mais il faut essayer d'alterner néanmoins avec justement des fruits plus riches en vitamine C. Puis, il y a aussi les légumes qui sont plus ou moins tendres, par exemple dans les salades. Je pense, quand vous avez des jeunes pousses, les pousses d'épinards, du mesclun, ça va être plus digeste que, par exemple, de l'endive ou de la scarole.
Plus c'est tendre, mieux c'est quoi?
Oui, voilà. Plus c'est tendre, plus c'est jeune. Donc les jeunes pousses en salade, par exemple, c'est ce qui va passer le mieux.
Okay.
Et puis ensuite, ce qui rend indigeste certains légumes, c'est la peau et les pépins. Donc vous disiez, est-ce qu'on doit les éplucher, etc. Bah, c'est vrai que les personnes qui sont sensibles, alors c'est plus trop la saison, mais bon, la tomate, les pépins plus la peau, bah, c'est vrai que vaut mieux l'éliminer. Les courgettes, les aubergines, on va faire attention pour que la cuisson soit également douce et avec pas trop de matière grasse, et bien sûr on élimine en partie les pépins, voire la peau.
Les autres aliments à éviter si on est sujet au gaz intempestif et au ballonnement? On m'a parlé, moi, des produits lactés, le chewing-gum, c'est une réalité ou pas?
Tout à fait. Alors, le lactose, il contient un sucre qui est délicat à digérer pour environ 10% de la population. Hein, tout le monde n'est pas concerné. Mais c'est vrai que quand on devient adulte, on ne produit pas forcément assez de lactase, c'est-à-dire l'enzyme qui est indispensable pour la digestion de ce sucre, le lactase. Donc aujourd'hui, on trouve en rayon des laits à teneur réduite en lactose qui passent mieux. Sinon, on va s'orienter vers d'autres produits laitiers plus intéressants. Mmh. Et en ce qui concerne les bonbons et les chewing-gums, alors les chewing-gums, déjà, on les mâche, on avale de l'air. Donc ça, c'est déjà pas top. Mais les chewing-gums sans sucre, en fait, ils contiennent quand même du sucre, mais qui s'appelle pas saccharose, qui s'appelle polyol. Ce sont des sucres de synthèse. Alors ça s'appelle sorbitol, mannitol, etc. Ce sont des sucres qui, malheureusement, fermentent, comme ceux des bonbons sans sucre. Et du coup, c'est pas génial parce que ça donne encore plus de ballonnement.
Les boissons gazeuses, les sodas, l'alcool, le café, tout ça, c'est à proscrire?
C'est selon tolérance, on va dire. C'est vrai que, mis à part les eaux minérales qui contiennent ce qu'on appelle des bicarbonates, genre Saint-Thior, hein, par exemple, Vichy Saint-Thior, donc ça, ce sont des eaux qui, effectivement, pour certaines personnes, sont plutôt agréables et permettent justement de mieux tolérer un repas un peu lourd. Donc on en parle souvent justement pour les repas festifs de réveillon. C'est vrai que les autres boissons que vous avez citées, c'est pas génial. Et puis en ce qui concerne l'eau, c'est vrai qu'il va pas falloir non plus en boire beaucoup pendant le repas. On dit que 2 verres par repas, c'est bien. Ensuite, il faut répartir tout au long de la journée. C'est quand même mieux.
Les viandes, est-ce qu'il y a des viandes à privilégier?
En ce qui concerne les viandes, c'est le fait qu'ils soient gras et qu'elles soient grasses et le mode de cuisson qui va faire aussi qu'elles sont plus ou moins grasses. Donc c'est vrai que les charcuteries, ça se digère moins bien que de la volaille, par exemple. Donc on s'oriente plutôt, quand on a des difficultés à digérer, vers des viandes moins grasses. On va éviter les fritures, les viandes en sauce qui ralentissent la digestion et qui favorisent justement les gaz. Et puis pour les cuissons, on va plutôt être sur des cuissons douces, saines, comme la cuisson basse température, la vapeur, les papillotes. Et tout ça, ça permet de mieux digérer quand même que la friture.
Les fromages, il y en a qui se digèrent bien ou pas?
Oui. Alors justement, tout à l'heure, on a parlé du lait. Mais quand vous êtes sur des fromages qui ont un affinage, donc non pas les fromages frais. Donc les fromages frais sont ceux qui se digèrent le moins bien, genre chèvre, mozza, etc. C'est moins digeste parce qu'il y a encore pas mal de lactose. Mais plus le fromage est affiné, vous voyez, genre Comté, Mental, Beaufort ou des fromages à pâte cuite, plus ils digèrent facilement. Et c'est la même chose aussi pour les yaourts. On vend aussi beaucoup maintenant du skyr, là, qui nous vient d'Islande. Donc tout ce qui est lait fermenté, il n'y a pratiquement plus de lactose. Et du coup, c'est des bonnes bactéries qui vont favoriser une bonne digestion. Donc c'est plutôt intéressant pour notre transit et notre microbiote.
Est-ce qu'il y a certaines herbes ou des épices qui aident à digérer? Vous savez, moi, je passe ma journée à boire de l'eau et des tisanes. Et il y a toujours des herbes. On vous propose parfois des tisanes digestion.
Oui, alors dans les tisanes et puis dans les herbes déjà qu'on peut mettre pour cuisiner, c'est ce qu'on appelle l'effet carminatif. Ça va expulser les gaz intestinaux et puis réduire leur production. Donc vous avez le romarin, le thym, le basilic, l'estragon, le cumin qui va bien justement avec les carottes, tout ça en ce moment à mijoter. Et puis on va les retrouver aussi bien sûr sous forme de tisane. Donc toujours pareil, le thym, la menthe, le romarin, la badiane, l'anis étoilé là, qui est très jolie, qui donne un bon goût, le fenouil, moins terrible en tisane, et puis la cannelle aussi. Donc tout ça, oui, on peut y aller gaiement. En fin de repas, ça peut aider.
C'est bien le charbon végétal, les pansements digestifs, les probiotiques et tout pour prévenir les gaz?
Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Hein. Il y a des gens qui vont se lancer effectivement là-dedans. Enfin, en micronutrition, c'est plutôt ce qu'on a tendance à proposer. Maintenant, il faut faire une cure. Hein. C'est souvent, faut faire une boîte de probiotiques qu'on va chercher chez son pharmacien, mais il faut qu'elle soit adaptée au cas de la personne. Donc, il vaut mieux se faire conseiller par un diététicien nutritionniste pour pas faire de bêtises non plus, quoi.
Alors, je sais que vous êtes venue avec des super recettes. On les mettra toutes sur les réseaux sociaux d'RTL.fr sous l'appellation Nous voilà bien. Oui. Est-ce qu'on peut en choisir juste une seule, parce que le temps manque?
Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un menu sur une journée comme
voilà.
Ça. Voilà. Et puis donc, la
ça
recette
j'embarque. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, la recette sympa, pratique et facile en ce moment, moi je coupe en morceaux une pomme, enfin plusieurs pommes, trois pommes à peu près, une mangue, et puis je vais faire cuire avec justement du bâton de cannelle, ouais, et puis une gousse de vanille. Donc je mets pas de sucre, je mets rien du tout. Je fais mijoter ça pendant même pas 10 minutes, quand c'est en petits morceaux, et à la fin, alors je mixe ou je ne mixe pas, mais pour ceux qui digèrent pas bien, on peut mixer. Et là, je verse une orange à jus que j'ai pressée, et je le mets directement dans la compote. Comme ça, ça apporte la vitamine tout en ayant une compote digeste.
Voilà, et ça, ça fait pas péter.
Voilà.
Et ça permet à un moment donné de lutter contre les ballonnements. Merci beaucoup. Le reste de votre menu sera sur nos réseaux sociaux. Solveig Darrigaud-Artinet, c'était super intéressant.
Merci Flavie, bon week-end.
Et on peut en parler comme ça, vous voyez, c'est ça qui est génial. Bon week-end à vous. Je conseille votre site cuisine, www.cuisine3s, comme super.fr. Merci beaucoup. À bientôt. Salut Solveig. Nous voilà bien obligés de nous dire au revoir maintenant. Et pour se consoler, bien, je vous invite à réécouter l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL ainsi que sur tous les sites partenaires. Merci à vous pour votre fidélité. Et à ce propos, justement, moi je vous retrouve à 20h sur RTL dès lundi avec Jour J. C'est le seul magazine capable de vous faire voyager dans le temps pour revivre des chapitres marquants de notre histoire collective. C'est passionnant, on y apprend des choses chaque soir sur RTL. Et puis bien sûr, samedi matin, nous serons de nouveau ensemble à partir de 9h15 pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end à l'écoute d'RTL, je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.